Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une semaine de crème de la crème un peu écourtée, et pas d'émission ni lundi ni mardi, pour cause d'une voix défaillante, dirons-nous, elle n'est pas à son top encore, vous l'entendez. Une émission très bavarde aujourd'hui, puisque nous pourrons évoquer grâce à Corentin l'exposition Prisme, qui est consacrée à Yann Nguema et qui a lieu au Champ Libre jusqu'au 31 mars 2024. On en parlera avec Yves-Marie Guivarch, qui est programmateur des Champs Libres et aussi commissaire de l'exposition. C'est lui qui a pu rencontrer Corentin. On parlera aussi avec Hélène Audrin, qui elle est responsable de l'action culturelle au Musée de Bretagne et qui nous parlera des rencontres d'histoire 2023. C'est du 24 au 26 novembre cette semaine. C'est les Champs Libres et l'Université Rennes 2 qui nous proposent de s'interroger avec eux. Qu'est-ce qu'on mange? Tout ça sera décliné en conférences, débats, projections, visites et dégustation. Sozy Global nous parlera livre jeunesse avec Aller en ligne numéro 53, ce qui nous lit par Anne Laval aux éditions Les Fourmis Rouges. Et puis on ira au Marquis de Sade pour les Trans Off le 8 décembre avec les concerts de Télépagaille et de Ponce. Et puis on ira aussi dans une nouvelle année choisie au hasard par La Machina, remonter le son 46e du nom. Et puis au Bar en Trans pour la 5e fois et au Transmusical pour la 11e fois émission. Donc très 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 riche aujourd'hui, vous l'avez compris. On va commencer avec des guitares qui carillonnent, une basse bien ronde, des claviers qui sautillent et une voix féminine qui lit tout ça. C'est pop, c'est un poil rétro parfois, 60s ou 90s. C'est Extra avec deux A, c'est le nom du groupe, un quatuor parisien qui sort son nouvel album, le deuxième, pour le label Requiem pour un Twister. Et on en écoutera toute cette semaine des extraits de ce disque Out of Phase. Voici le morceau Eden Boy. Bonne émission.
1996.
Cette semaine, comme chaque semaine, la machine a remonté le son. C'est l'occasion de revenir sur une année choisie complètement au hasard, entre 1960 et 2022, histoire de redécouvrir des chansons plus ou moins oubliées, et puis aussi des classiques intemporels. Là, vous entendiez un magistral morceau par Barry Adamson. Barry Adamson, il a fait partie du groupe Magazine à la fin des années 1970, début 80 en Angleterre, et puis après ça, il a pu venir rejoindre les Bad Seeds de Nick Cave, et depuis 1989 il a une activité solo plus ou moins régulière et musicale, en tout cas c'est sûr. En 1995 et puis fin 95 début 96, il sortait cet excellent album Oedipus Schmoedipus, où on le voyait faire le crooner ou l'orchestrateur façon classe internationale et musique de film rutilant. Il invitait aussi quelquefois des amis comme le fameux Jarvis Cocker, chanteur de Pulp, qui se remettait à peine de ce tube international qu'il avait fait quelques mois auparavant en 95, le morceau Common People. Vous entendiez à l'instant le titre Set the Controls for the Heart of the Pelvis, avec donc Jarvis Cocker. On reviendra jeudi à nouveau en 1996 grâce à la machine à remonter le son. Mais à présent, on part du côté de La Cavale, qui vous proposera pendant les bars en transe le samedi 9 décembre quelques aventures bien groovy avec Bernadette. Vous y retrouverez aussi Cibou Manaï, et puis ce qu'on va écouter maintenant, coup de cœur Ferrarock il y a peu, c'est Tonnerre et Bikai, un groupe qui nous propose une cérémonie vaudou à La Cavale, donc le samedi 9 décembre. On reçoit ce trio un peu comme une sorte de coup de poing en pleine face. Ça envoie des beats électroniques, des percussions tribales, et puis ça invite à la danse, évidemment. On écoute Tonnerre et Bika, et c'est bien eux que vous retrouverez le samedi 9 décembre à La Cavale, avec donc, je vous le rappelle, Cibou Manaï et Bernadette. On écoute le titre It's a Bomb. Toutes les infos sur barentrance.com.
It's a bomb.
À l'instant, vous entendiez les Bam Bams Boogie que vous pourrez retrouver pendant les Transmusicales. Hall numéro 8, samedi 9 décembre. Rencontre internationale entre des musiciens qui se sont formés à Berlin, mais qui viennent des États-Unis, d'Irlande, d'Italie. C'est une rencontre groove avec un chanteur qui pourrait, comme ça, nous faire penser à Tricky. Il lui ressemble. Ça mélange groove hypnotique, rythmique hip-hop et puis envie de croiser tous les styles, évidemment. On écoutait à l'instant ce titre Mescaline, vous les verrez donc les Bam Bams Boogie au hall numéro 8 le samedi 9 décembre pendant les Transmusicales. Toutes les infos sur lestrans.com. Thank you. Dans la page culture de Crème de la Crème, aujourd'hui, je reçois Hélène Audrin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'action culturelle au Musée de Bretagne et ensemble, on va parler de ces rencontres d'histoire, version 2023, qui vont s'intéresser à cette question. Ça a déjà commencé et ça se poursuit entre le Musée de Bretagne et puis aussi l'Université Rennes 2 du 24 au 26 novembre. Qu'est-ce qu'on mange ? Voilà le menu de ces rencontres d'histoire. Le nom de l'événement, c'est ça, mais avant tout, pourquoi mange-t-on ? J'imagine, c'est peut-être les premières questions qui vont se poser dans le cadre de ces rencontres d'histoire.
Oui, voilà, effectivement, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de s'interroger en fait sur le fait de manger. C'est avant tout un besoin physiologique, physique, mais finalement, on se rend compte que le simple fait de manger implique finalement des enjeux dont on n'a pas forcément conscience, mais qui s'inscrivent dans un cadre culturel, social, économique et politique, et ce, de tout temps.
Du fait de cuisine, ça c'est un traité de gastronomie médiévale de Maître Chicard, jusqu'à la grande bouffe de Marco Ferreri, en passant par le déjeuner sur l'herbe de Manet. Il y a de nombreuses œuvres artistiques comme ça qui ont pour sujet l'alimentation. Donc c'était idéal aussi de pouvoir en illustrer quelques-uns des thèmes avec les œuvres du Musée de Bretagne.
Oui, effectivement. Bah, d'ailleurs, à l'occasion de ces rencontres d'histoire, on a créé une nouvelle visite thématique qui s'appelle Boire et manger dans les collections du musée, qui a fait l'objet aussi d'un petit dépliant d'aide à la visite. Donc l'idée c'est aussi effectivement de mettre en tout cas en lumière dans notre exposition permanente quels sont les objets qui se réfèrent à l'alimentation, également à la notion de boire, et ce depuis la préhistoire jusqu'aux boîtes de pâté et naff.
Et si je ne me trompe pas, Hélène Audrin, vous étiez commissaire adjointe de l'exposition Boire entre 2015-2016, donc c'est un petit peu une obsession au Musée de Bretagne, en fait, ces sujets-là.
Oui, effectivement, on s'intéresse depuis longtemps au Musée de Bretagne, au boire et au manger. Il y avait déjà eu une exposition qui s'appelait « Quand les Bretons passent à table », qui a vraiment fait date. Et effectivement, en 2015, on s'est intéressé au boire. Alors, moi, c'est un sujet boire et manger qui m'intéresse de façon professionnelle et personnelle, mais également un sujet qui intéresse beaucoup Céline Chanas, la directrice du musée, et c'est elle qui avait impulsé cette envie d'une exposition sur le boire.
Les rencontres d'histoire, qu'est-ce qu'on mange ? C'est donc décliné en conférences, en débats, en projections, visites et dégustations. On pourra même déguster dans de la très très belle vaisselle, c'est ce que j'ai pu voir dans le programme. Qu'est-ce qui a déjà commencé en fait dans ces rencontres d'histoire, Hélène ?
Alors hier soir, dans le cadre des mardis de l'Espace des Sciences, nos collègues de l'Espace des Sciences ont reçu Anthony Berthoud, qui est nutritionniste, ancien sportif de haut niveau, qui accompagne des sportifs aussi dans leur alimentation, et qui nous a parlé de comment est-ce qu'en 2023, on pouvait mieux manger pour prendre soin de la planète et de soi. Donc une rencontre très très intéressante que vous pouvez retrouver en ligne d'ores et déjà sur le site de l'Espace des Sciences.
Qu'est-ce qu'on mange ? Point d'interrogation, mais qu'est-ce qu'on mange ? Point d'exclamation aussi. Qu'est-ce qu'on mange ? Beaucoup de points d'interrogation parce qu'on n'a pas tous les mêmes rapports évidemment à la nourriture. On peut évoquer les sujets comme l'autosuffisance, l'agriculture biologique, la raréfaction des matières premières aussi évidemment en raison de la crise climatique ou bien de conflits armés comme ce qui se passe en Ukraine depuis bientôt 2 ans. Aussi on peut penser à des crises économiques qui conduisent à la paupérisation des Français, des jeunes surtout, on le voit, hein, des étudiants. Alors tout le monde ne mange pas la même chose puisque tout le monde ne mange pas aussi.
Oui, effectivement, nous aussi, ça nous intéressait en fait de creuser un peu ces questions-là, puisque pour certaines personnes, manger, ils choisissent de manger pour se nourrir. D'autres personnes ont la possibilité de choisir leur mets, de choisir d'où viennent leurs aliments, de choisir la qualité, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et c'est pour ça qu'on va notamment s'intéresser aux droits à l'alimentation et à la lutte contre la précarité alimentaire en France avec Magali Ramel qui a fait sa thèse sur ce sujet et qu'on pourra écouter lors du programme Ma thèse en 15 minutes vendredi à 17h. Tout ce qui va concerner effectivement aussi l'approvisionnement alimentaire, on en traite demain dès 13h30 avec une rencontre qui va finalement s'appuyer sur le 20e siècle et sur les grands conflits qu'on a connus au 20e. pour essayer de d'analyser en fait ce que les guerres peuvent provoquer sur l'approvisionnement en alimentation, les carences, les éventuelles famines, les restrictions en tout cas que ça provoque. Et on le voit aussi effectivement avec la guerre en Ukraine actuellement.
J'ai sous les yeux moi le programme de cet événement, de ces rencontres d'histoire, qu'est-ce qu'on mange. Et évidemment, l'iconographie est très riche, nous renvoie à des peintures de la Renaissance, il y a des photos des années 1950, il y a des cartes de rationnement de l'époque de la guerre. Ça doit être très plaisant d'aller plonger comme ça dans les réserves du musée de Bretagne et d'aller y chercher des choses qu'on n'a pas encore montrées forcément dans des expositions comme les Bretons passent à table par exemple ou dans Boire. Il y aura vraiment beaucoup de nouvelles œuvres montrées pendant ces rencontres d'histoire ?
Non, il n'y aura pas de nouvelles œuvres montrées. Là, c'est effectivement des collections du musée qu'on a pu prendre sur notre portail en ligne, qui est accessible à tous et à tous. D'ailleurs, il y a une sélection à la une. Donc, si les auditeurs ont envie de se plonger dans nos collections autour de ce thème, ils peuvent. Mais par contre, on les aura en iconographie, puisqu'on a des images, bien sûr, qui vont accompagner la plupart des rencontres que l'on organise. Mais voilà, il n'y a pas d'exposition en fait liée à ces rencontres d'histoire. Là, on est vraiment sur un événement de 3 jours avec des visites, des rencontres, des projections, des dégustations. Hein. L'idée, c'est vraiment que le public puisse découvrir des thèmes, puisse échanger avec nos invités, faciliter l'appropriation et l'échange.
On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Ba-da-da-da. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et les œufs durs. Des cornichons, des cornebifs et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière. Des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé 3 jours sans s'arrêter pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio.
On parle dans cette émission Crème de la Crème aujourd'hui avec notre invitée Hélène Audrin du Musée de Bretagne, de ses rencontres d'histoire, qu'est-ce qu'on mange du 24 au 26 novembre. Alors, aucun aspect de la nourriture, de l'alimentation ne sera laissé de côté. On pourra aussi bien parler banquet, entendre parler de petit déjeuner, s'arrêter peut-être entre les étals du marché des Lys, qui est quand même incontournable évidemment, et pas seulement à Rennes. Vous avez invité quel type de spécialiste de la question? Pas seulement des historiens, aussi bien des gastronomes, des cuisiniers, des cuisinières.
Oui, effectivement. Donc à la base, la programmation se fait vraiment en partenariat avec le département Histoire de Rennes 2. Donc l'idée, c'est un peu de mettre en avant la recherche à l'université de Rennes 2, mais pas seulement, de croiser les disciplines, donc avec des géographes, des sociologues, des ethnologues, des docteurs en cinéma, et effectivement également de pouvoir faire des pas de côté, de montrer aussi que l'alimentation, ça fait partie de notre histoire populaire. Donc on a notamment Christian Lesquer hein, qui vient dimanche, donc chef triplement étoilé, qui va parler avec Yvon Le Carreau, qui est maître de conférence en géographie à l'université de Rennes 2, qui vont nous parler de nourriture et de terroir, de territoire. On a également Sybille Selam, la chef de Pénat, qui va venir avec Pascal Horry, académicien, et Estherelle Payani, qui est journaliste spécialiste des questions question de l'alimentation, nous parler du genre en cuisine. Nous avons également donc des comédiens. Voilà, donc effectivement, on essaye de croiser à la fois les disciplines et les spécialités.
En France, c'est incroyable, on parle toujours de manger. Peut-être que c'est une spécificité de ce pays, ça doit se faire aussi ailleurs, mais bon, on parle de manger avant de manger, pendant qu'on cuisine, pendant qu'on déguste, et toujours, même après avoir mangé. Qu'est-ce que ça dit de nous finalement ?
Alors, je pense que, bah, effectivement, ça dit de nous qu'on est un pays, en tout cas, qui s'est toujours intéressé à la gastronomie, qui a quand même eu de multiples chefs. Voilà, des chefs qui ont pu aussi créer une nouvelle façon de manger à différentes époques. De nombreux critiques gastronomiques qui ont participé, notamment Kurnowski, à mettre en lumière finalement ce qu'était l'alimentation en France. Donc il y a vraiment cette réalité, hein, historique. Et puis finalement, ouais, je saurais pas dire finalement ce que ça révèle réellement des Français, mais en tout cas le classement du repas des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO est quand même un marqueur que c'est une forte identité en tout cas de notre pays. Mais je pense que si les auditeurs veulent tout apprendre sur ce sujet, ils peuvent venir samedi à 16h pour écouter Florent Quélier nous parler des Français et de la table.
Et il ne faudrait pas croire, malheureusement, hein, que tout est rose au royaume de l'alimentation, puisque on pourra aussi en apprendre sur les méfaits de l'agro-business en Bretagne. Vous parliez tout à l'heure des boîtes de pâté ENAF. Bon, est-ce que c'est la meilleure nourriture qu'on peut vraiment espérer et offrir à la population? Bon, bah ça, je vous laisse réfléchir chez vous. Mais en tout cas, Nicolas Legendre, lui, abordera ce sujet où c'est vrai qu'on est quand même dans une région, la Bretagne, qui est productiviste quand même. Assez à outrance quand même.
Oui, effectivement. Donc là, on le reçoit pour son livre, hein, Silence dans les champs, où pendant 5 ans, il a vraiment enquêté sur ce système, hein, qu'il dénonce, mais dont il essaye aussi de comprendre les origines, comment il est né, comment il s'est développé et quelle mainmise il a aujourd'hui sur tout le système agroalimentaire en Bretagne. Donc c'était vraiment important aussi pour nous de venir sur le contemporain, puisqu'on sait que ces enjeux-là, surtout en Bretagne, sont très importants. Qu'ils ont un impact économique, politique bien sûr, mais évidemment écologique aussi.
Merci Hélène Audrin, on a vraiment envie d'y être déjà à ces rencontres d'histoire et d'aller déguster, et comme je le disais tout à l'heure, parfois même dans de la très 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 belle vaisselle et façon Renaissance un petit peu.
Oui, voilà, Hubert Delorme qui est enseignant au lycée hôtelier de La Guerche nous a concocté des mets, alors sucrés, hein, qui se mangeaient à la Renaissance, donc il va nous expliquer pourquoi, comment étaient faits ces mets, et donc Nora Cotensin, qui est une artiste plasticienne, a créé pour l'occasion en fait des plats inspirés de nos collections.
Retrouvez donc les rencontres d'histoire Qu'est-ce qu'on mange du 24 au 26 novembre. Toutes les infos sur leschampslibres.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon appétit, bien sûr.
Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvres boîtées, les tomates, les cornichons. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da-da. Ba-da-dee-ba-da-da. Ba-ma-dee-da-da-da-da. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da-da. Ba-da-dee-ba-da-da. Ba-ma-dee-da-da-da-da. Mais quand on est arrivé, on a trouvé de la pluie. Ce qu'on avait oublié, c'était les parapluies. On a ramené les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. On est rentré manger à la maison. Le fromage et les pâtes, les confitures et les cornichons. La moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons. Le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons.
Et Et la page culture de Crème de la Crème se poursuit avec cette fois une rencontre qu'a pu faire Corentin, qui est volontaire en service civique cette année à Canal B et qui est allé du côté des Champs Libres retrouver Yves-Marie Guivarch, programmateur des lieux et commissaire de l'expo Prisme par l'artiste Yann Nguema. On les écoute avec quelques amis de Corentin qui assistaient à l'exposition eux aussi.
On fait la queue pour une expo qui a l'air visiblement très prisée.
Alors, du coup, c'est tout ce qui est en bleu. Sur le plan, ce sont des œuvres interactives. Ce qu'il faut, c'est placer sa main à environ une vingtaine de centimètres de hauteur, les doigts légèrement écartés, et l'œuvre va être interactive. Et l'œuvre Gravity, qui est juste ici, du coup, c'est la seule qui n'est pas interactive de l'exposition. Il ne faudra pas franchir, du coup, les lignes blanches et tout ça. Et l'œuvre Atlas, elle n'a pas été installée encore, donc il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait rien.
Ok.
Tu travailles ici?
Non, je vais faire un speech. Du coup, je vous explique. Merci.
En ce moment, au Champ Libre, et jusqu'au 31 mars 2024, se tient l'exposition Prisme de l'artiste Yann Nguema. Une exposition qui donne à explorer la matière transparente pour créer de nouvelles formes d'images poétiques et mystérieuses. Pour la présenter, je suis avec Yves-Marie, le programmateur des Champs Libres et commissaire de l'exposition. Bonjour Yves-Marie.
Bonjour Corentin.
De quoi elle est composée cette expo?
Alors cette expo, elle se compose de 10 œuvres, deux œuvres assez monumentales, une première qui s'appelle Gravity, qui occupe une bonne partie de l'espace de la salle d'exposition, qui est une œuvre très contemplative, avec des voiles animées sur lesquelles viennent se greffer des projections. Une autre œuvre assez spectaculaire qui s'appelle Atome, qui est une projection en 3D très très immersive, qui nous plonge au cœur de la matière, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Et puis, autour de ces deux grosses pièces, on a huit œuvres de taille plus modeste, à taille humaine, qui sont toutes interactives et qui ont chacune comme point commun de pouvoir être manipulées et d'utiliser des surfaces particulières pour projeter, donc que ce soit du verre gravé, du plexiglas, du sable ou des sculptures.
Une chose qu'on remarque lorsqu'on est face aux différentes installations, c'est la diversité des matériaux et des techniques utilisées pour au final, ça crée quand même quelque chose d'assez unique.
Voilà, alors il y a un fil rouge qui est l'univers esthétique de Yann Nguema qui repose beaucoup sur des collages, le fait d'assembler des éléments organiques. On retrouve pas, notamment des orchidées à plusieurs reprises et également des influences esthétiques venues d'ailleurs. On retrouve un masque de geisha, un samouraï, un masque africain. Et donc ces collages, cette esthétique un petit peu steampunk aussi, qui est sa marque de fabrique depuis de longues années. Et en même temps, à chaque fois, chaque œuvre est en elle-même une expérimentation singulière et à chaque fois un petit défi technologique que l'artiste se met à lui-même pour trouver de nouvelles matières, de nouvelles manières de montrer l'image.
Tout à l'heure, quand j'ai déplacé le galet, je pouvais écrire des trucs avec. Et là, ça ne marche plus.
Ah si, là, ça a fait une tache.
Enfin, ça a fait une tache?
Ouais, je crois. T'as fait un pouf.
Non. Non, tout à l'heure, ça faisait vraiment genre juste... Ça traquait le galet. Je pouvais écrire des trucs avec.
Sur l'esthétique, c'est beaucoup composé de formes assez abstraites que moi, j'aurais placé un peu entre les fractales et la matière organique. Elles viennent d'où ces formes? Elles sont créées comment?
Alors il y a déjà une inspiration très scientifique. Hein. Yann Nguema a travaillé avec des chercheurs, notamment des chercheurs du CEA à Grenoble. Donc effectivement l'œuvre Atome, cette projection immersive en 3D, on est vraiment dans une inspiration scientifique qui est de représenter des figures géométriques complexes à représenter, qui s'appellent les polytopes 4D. Voilà, donc il y a cette inspiration-là qui peut donner effectivement cette impression d'être dans quelque chose de très abstrait, et en même temps on est au cœur de la matière. Il y a effectivement des inspirations organiques qui sont effectivement des fleurs, des végétaux. On retrouve du lichen, on retrouve des orchidées. Et puis des choses effectivement qui sont plus abstraites, plus contemplative, et tout ça se mêle dans un grand collage qui est assez fidèle à l'esthétique de l'artiste, hein, que voilà, pour ceux qui s'en souviennent, il avait signé les affiches des Transmusicales pendant 5-6 ans, et on retrouvait effectivement cette esthétique assez poétique, faite de collages, d'éléments un peu singuliers, et puis encore un peu plus en amont, tout le travail graphique qu'il avait développé pour le groupe Ezekiel, dont il était membre pendant de longues années.
La majorité des œuvres qui sont présentées sont interactives. Le spectateur, il peut choisir de créer telle ou telle forme grâce à des capteurs de mouvement, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que c'est des œuvres qui peuvent toutes être juste regardées. L'interactivité est un plus. C'est pas au cœur de la pièce, mais effectivement, ça apporte une dimension supplémentaire et on peut interagir avec la lumière. Voilà, on peut, pour une œuvre qui s'appelle Lito Samos, déplacer des galets dans un bac à sable et voilà, générer des formes à l'aide de ce galet. On peut, sur une œuvre qui s'appelle Anatomie, déplacer la main devant le masque de geisha qui se trouve face à nous et plonger au cœur du visage et de son anatomie. Voilà, donc c'est effectivement une dimension supplémentaire qui permet de révéler des couches supplémentaires à l'œuvre.
En fait, on utilise nos mains et ça capte nos mouvements et l'œuvre se révèle avec.
Vous, Yves-Marie, vous êtes le commissaire de l'exposition Prisme. Ça consiste en quoi ce métier de commissaire pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est ?
Alors, en l'occurrence, mon rôle est plus celui d'un programmateur, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai choisi d'aller chercher cet artiste, de lui proposer d'accueillir son travail au champ libre et travailler avec lui sur la manière dont on pouvait présenter les œuvres, comment on pouvait les agencer dans l'espace, etc. C'est vrai que sur d'autres expositions, on peut plus parler de commissariat dans la mesure où on va aller sélectionner des œuvres d'artistes différents, les faire travailler ensemble. Voilà, là on avait un univers assez cohérent de 10 œuvres, donc mon travail a plus été de voir comment ils pouvaient s'inscrire dans cet espace, comment on pouvait agencer ensemble ces œuvres. Et effectivement, le travail de commissariat consiste plus à aller chercher des œuvres distinctes d'artistes différents le plus souvent et construire un récit à partir de d'œuvres voilà de différents artistes.
Sur l'agencement, du coup, cette expo, c'est un peu un espace d'apaisement, d'évasion. Comment ça se pense, un espace comme ça ? Comment on peut évoquer cet apaisement, quoi, dans l'agencement ?
Alors on a cette salle qui est la salle Anita Conti, qui est un grand volume de 400 mètres carrés. Et effectivement, l'enjeu, c'était d'y faire entrer le maximum d'œuvres possible et tout en faisant en sorte que chacune soit présentée le mieux possible. Et puis l'idée de créer un parcours, et donc c'est pour ça qu'on a cette pièce centrale qui, d'emblée, quand on entre, effectivement, est assez majestueuse, assez contemplative, et donc tout de suite pose un état d'esprit. Donc on est saisi, on peut voilà être émerveillé, avoir envie de se poser pour la regarder, et puis après on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Donc il y a tout au long de la salle des petites alcôves qui voilà permettent de se retrouver individuellement pour un visiteur face à une œuvre qui est quasiment à son échelle, donc qui permet vraiment d'avoir une notion de proximité, et on passe voilà du spectaculaire à l'intime, mais toujours avec ce fil rouge effectivement assez apaisant. Il y a aussi cette bande son de l'artiste Zero Gravity, donc qui est un membre du groupe Ezekiel auquel a appartenu Yann Nguema. Ça, c'est son projet solo électro. Là, on est sur une dimension assez ambiante, qui impose aussi cet état de voilà mi-chemin entre le rêve et la réalité. Et voilà, tout ça se mêle effectivement pour proposer une expérience très immersive. On est vraiment au cœur des œuvres, très contemplative, très très apaisante aussi et assez poétique.
Est-ce que l'artiste Yann Nguema a un processus de création précis dans la conception de ses œuvres ?
Alors c'est un artiste qui, quand il parle de son travail, il dit qu'en fait c'est 95% de code et 5% de poésie. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui au départ part du défi technologique, de la programmation, d'une envie de proposer proposer quelque chose qui techniquement n'a pas encore été réalisé. Donc il part vraiment du code, de la technologie, de programmer des centaines d'heures, d'essayer de trouver le matériau qui va avoir des propriétés optiques qui l'intéressent. Et après, effectivement, le travail artistique, entre guillemets, vient après. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est secondaire. C'est évidemment le cœur et son intention. C'est que la technologie, tout ce travail de recherche, de bidouillage, de code s'efface au profit de l'expérience immédiate et artistique pour arriver à quelque chose qui va au final n'être presque pas vu par le public, s'effacer au profit d'une expérience sensible.
Est-ce qu'il y a une œuvre de cet artiste qui vous a marqué, que ce soit une œuvre qui fait partie de cette expo ou une autre que vous auriez envie de présenter un peu plus ?
Ben, je pense, alors c'est peut-être celle qui va être la plus immédiate et la plus visible au cœur de l'exposition, mais c'est peut-être celle qui résume le plus ce qu'est l'exposition Prisme, c'est Gravity. Donc c'est deux voiles qui font chacun 10 mètres de long, donc qui se déploient sur une vingtaine de mètres au sein de la salle. Ils sont animés par des ventilateurs, d'abord de manière très très subtile, très très délicate, et puis au fur et à mesure que la séquence se déploie de manière beaucoup plus majestueuse, et sur ces voiles viennent se greffer des projections. Les spectateurs nous parlent certains ont l'impression de contempler une remonta majestueuse au fond de l'océan ou de regarder des nuages. Enfin voilà, il y a vraiment une expérience très 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 physique, sensible, qui est très simple et en même temps très très émouvante. Et je pense que c'est voilà toute la force de ce travail d'amener avec un dispositif somme toute assez simple. On a quelques ventilateurs, des voiles, une bande son, et puis d'amener à se projeter vers quelque chose qui est très apaisant. On a des visiteurs qui nous disent qui reviennent régulièrement dans cette salle pour se ressourcer parce que ça leur fait du bien. Je pense que c'est quelque chose d'assez merveilleux de quelqu'un puisse vous dire mais je sors de cette exposition en me sentant mieux, ça je me sens plus apaisé, j'ai l'impression d'avoir regardé la mer pendant une heure. Donc voilà, je pense que cette force de l'exposition, elle est là, peut-être. Dans il y a évidemment la dimension technologique, la dimension ludique, la dimension esthétique, mais c'est avant tout effectivement une expérience sensible et on nous dit aussi beaucoup que c'est une sorte de bulle. On a une actualité qui est extrêmement anxiogène, extrêmement violente, et entrer ici, ben c'est une sorte de parenthèse enchantée, et si les spectateurs peuvent l'appréhender comme ça, c'est merveilleux pour un lieu comme le nôtre.
On était avec Yves-Marie, le commissaire de l'exposition Prisme de l'artiste Yann Guéma. Elle est visible gratuitement au Champ Libre à Rennes jusqu'au 31 mars 2024. Merci Yves-Marie.
Merci Quentin.
Genre quand ça s'envole d'un coup, ça c'est stylé.
Allez, on lit. Allez, on lit les chroniques littérature jeunesse par Soizig Le Bay sur Canal B.
Dans Crème de la Crème, le mercredi, Soizig Le Bay, bonjour.
Bonjour.
Nous retrouve et nous parle de livres aujourd'hui. C'est dans la catégorie, on va dire, Allez, on lit, ce qui nous lit par Anne Laval aux éditions Les Fourmis Rouges.
Un joli album pour les enfants jeunes. C'est le printemps, ce matin. On entend les oiseaux dans le jardin. Tout a poussé. On pourra bientôt cueillir. Toi aussi tu pousses ma grande, cet été tu seras aussi grande que le groseillier. Ainsi commence le dialogue entre une grand-mère bienveillante et sa petite fille. Est-elle grande, mamie ? En tout cas, elle fait la sieste, tandis que la petite fille cueille un gros bouquet de fleurs pour sa maman. Fleurs que l'on mettra à sécher pour se souvenir du printemps. Jour de pluie, chouette, des crêpes. La terre a besoin d'eau, puis c'est l'été. La sieste dans le hamac sous l'arbre, j'irai courir après les sauterelles, cueillir les mûres à côté de la rivière et aussi les légumes du jardin. Et si les fleurs se transforment en fruits, nous, en quoi nous transformons-nous ? Oh mamie, je ne savais pas que tu étais si vieille. L'automne, les arbres sont multicolores et toi mamie, tu as plein de rides. Ta fille c'est maman et papa c'est qui ? L'hiver, les oiseaux sont partis là où il fait chaud, les arbres sont nus, je me cache sous ma couette, j'en fais une cabane, j'hiberne comme les ours avec l'écharpe de maman, mon pyjama en pilou parce qu'il est doux. Il fait bon dans ma petite cabane. Mamie dit que chacun a besoin d'une cabane à soi. Dans la sienne, il y a plein d'objets qu'elle a fabriqués tout au long des années. Et bientôt, le printemps reviendra. Voilà un très joli album de rentrée. Les quatre saisons déclinées tout en douceur, avec le lien grand-mère, petite-fille et le passage de l'expérience, avec au fil des bavardages des questions essentielles que posent les enfants de manière directe. Ce qui nous lie, d'une génération à l'autre, au monde, notre lien à la nature. L'objet n'est pas très grand, illustré avec des tampons et un mélange de gouache et de crayon pastel, une mise en page très aérée. C'est une très bonne lecture pour démarrer l'automne avec les petits enfants. Anne Laval, elle, est née à Tahiti. Elle dessine pour différents types de presse et d'éditions, Actes Sud, Gallimard, Naïve, The New Yorker, Télérama, la revue 21. Et ses techniques utilisées varient selon ses compositions entre collage, peinture, sérigraphie ou crayon de couleur. Et elle a un vrai talent pour la mise en couleur, jamais trop.
Que vous soyez une mamie ou pas, vous pouvez lire, offrir et parcourir, et en compagnie évidemment, des petits, ce qui nous lie par Anne Laval aux éditions Les Fourmis Rouges. Merci Soizig, on se retrouve bientôt un mercredi comme d'habitude.
À très bientôt.
Allez, on lit les chroniques littérature jeunesse par Soizig Le Bail sur Canal B.
Dans la chronique Allez, on lit numéro 53, l'illustration musicale était due au groupe Akale Wube que vous entendiez avec le titre Spring No Come. Dans la session info-concert, un seul et unique événement à vous présenter. Il sera donné dans le cadre d'un trans-off le vendredi 8 décembre du côté du Marquis de Sade par deux assos qui se mêlent pour vous proposer une rencontre explosive entre synth-punk parisien avec Télépagaille et puis No Wave Art Rock new-yorkais avec le groupe Ponce. Merci donc à Désordre et Vague Confusion d'organiser cette soirée-là le 8 décembre donc au Marquis de Sade. On les écoute. Le groupe Ponce qui nous propose une évocation de cette belle époque du post-punk new-yorkais qui mélangeait la new wave et puis l'art rock. Le groupe Ponce, on les écoute immédiatement avec ce morceau Coral King. C'est la fin de Crème de la Crème. On se retrouve jeudi pour une émission spéciale Blind Spot, le magasin qui fête ses 15 ans avec une belle soirée le 25 novembre. On ira faire un tour au magasin pour une petite sélection maison. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !